Oui, c'est l'heure du face à Duhamel maintenant. Alain et Madame Royal prennent place. Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir.
Bonsoir Madame Royal. Toujours potentiellement candidate. Vous faites toujours des offres de services pour Matignon.
Pour remplacer Barnier.
Écoutez, je pense que la situation est suffisamment grave aujourd'hui pour ne pas participer à ce nouveau feuilleton. Parce qu'on a déjà subi ce feuilleton lors du précédent remaniement. Et là, j'ai pas envie de participer à ce feuilleton aujourd'hui. Je vous ai déjà répondu une fois, donc je n'ai pas changé d'avis. Mais franchement,
la saison 2 ne vous intéresse pas.
Et puis en plus, le vote n'a pas encore eu lieu. Il a lieu demain. Donc, je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, on est là pour ça, je crois, c'est analyser les raisons de fond qui expliquent la situation actuelle.
On va y venir, bien sûr. On va passer d'abord par l'Assemblée nationale, retrouver Pierre Barbin en direct pour BFM TV, parce que on a l'impression, Pierre, que ça y est, les dés sont jetés, hein.
Oui, c'était une séance bizarre. Voilà les mots de Jérôme Guedj, le député PS de l'Essonne, à la sortie dans la salle des quatre colonnes. Voilà les mots forts de ce député. On se doute que c'est l'une des dernières séances de questions au gouvernement de Michel Barnier en tant que Premier ministre. Mais une nouvelle fois, chaque camp se rejette la faute sur l'un ou sur l'autre, au niveau politique, bien évidemment. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a notamment dénoncé une tambouille politique accusant Marine Le Pen de s'allier avec l'extrême-gauche. En tout cas, le gouvernement tente encore et toujours de convaincre les 577 députés de ne pas voter ces motions de censure, malgré le temps imparti. Mais le principal intéressé, lui aussi, se met à la tâche, Michel Barnier, en première ligne, qui répondait à une question d'André Chassaigne. Écoutez.
Tout le monde sait que la situation est difficile. Elle l'est sur le plan budgétaire. Je l'ai dit dès le début en cherchant à dire la vérité aux Français. Tout le monde sait que la situation économique et sociale est difficile. Il y a une chose dont je suis sûr, monsieur Chassaigne. Je suis sûr, et retenez bien ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que la censure dont il est question demain, et nous retrouverons, rendra tout plus difficile et plus grave.
Tout sera plus difficile et plus grave. Voilà les mots forts de Michel Barnier. Mais on le sait, ça ne fait aucun doute maintenant, dans un peu plus de 24 heures, avec le vote de cette motion de censure déposée par la France Insoumise au nom du Nouveau Front Populaire, le gouvernement tombera et Michel Barnier ne sera plus Premier ministre moins de 3 mois après son arrivée à Matignon.
Pierre Barbin avec Nils Olsen en direct de l'Assemblée nationale pour BFM TV. Donc, venons-en maintenant à notre débat. Face à Duhamel, Ségolène Royal, Alain Duhamel. Bonjour. À qui la faute, Alain Duhamel?
Bon, tout le monde a une part de responsabilité, mais une part inégale. Et certains, ou plutôt certaines, davantage que les autres. Bon, Emmanuel Macron a forcément une part de responsabilité, puisque c'est lui qui a déclenché la dissolution, donc c'est lui le détonateur. Donc on ne peut pas dire qu'il n'ait pas une part de responsabilité, il en a une. Michel Barnier a une part de responsabilité. Bon, c'est un homme très respectable, qui a fait ce qu'il a pu, qui connaît ses dossiers, mais on ne peut pas dire qu'il était très habile. Il ne l'a pas été vis-à-vis de sa propre majorité. Et en ce qui concerne le Rassemblement national, il s'est trompé. Il s'est trompé sur la méthode, il s'est trompé sur les intentions du Rassemblement national. Donc il a aussi sa part de responsabilité. La gauche a sa part de responsabilité, puisqu'elle dit que quoi qu'il se passe, de toute façon, c'est la censure. Autrement dit, c'est pavlovien, c'est mécanique. Ça tourne comme une mécanique. Les circonstances ne changent rien. Pourtant, les circonstances changent, elles. Mais pas la gauche. Bon, la majorité d'abord, elle, alors qu'elle est déjà réduite, en plus elle était désunie. Franchement, elle n'a même pas le sens de la survie. Si elle voulait s'affaiblir davantage et se dire que quand il y aura la prochaine dissolution, ça sera à son détriment, elle ne pourrait pas aller plus loin. Bon, et puis il reste Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a été, il faut dire les choses... Elle a été habile, elle a été cynique, elle a été manipulatrice, elle a été efficace. Elle a une responsabilité directe dans la situation qui se produit, évidemment. Mais Marine Le Pen, aujourd'hui, c'est l'épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête de Michel Barnier. C'est une épée très effilée et qui est soutenu non pas par une corde, mais par un fil minuscule qui a toutes les chances de casser demain.
Moi, je partage tout à fait cette analyse, c'est pour ça que j'y viendrai peut-être tout de suite aux conséquences de ce que vous venez de parfaitement de décrire. C'est une urgence, d'abord, c'est le rétablissement de la continuité de l'État et du bon fonctionnement des institutions. C'est ça, aujourd'hui, qu'il faut réaliser. Parce que tout ce que vous venez de décrire montre qu'il y a une crise de confiance très profonde. Il y a deux raisons pour lesquelles il y a une crise de confiance très profonde de la société française à l'égard des dirigeants et maintenant, ce qui est plus grave, à l'égard des institutions parce qu'elles n'arrivent pas à fonctionner correctement. C'est ça qu'il faut rétablir, je le répète. C'est que d'une part, les Français subissent déjà un déclassement accéléré et angoissant et ils ont entendu qu'ils allaient payer en plus. C'est très simple, hein. Et la seconde chose, c'est qu'ils ont entendu dire, des dirigeants, mais on a découvert un trou de 1000 milliards, donc on est désolé, mais vous allez payer. Et les gens se disent, mais nous, si on avait un découvert bancaire, on l'aurait quand même vu avant. Et on aurait fait ce qu'il fallait pour réduire les dépenses. Et donc, dans cette incompréhension sur la nature même des décisions, sur les raisons pour lesquelles les décisions sont prises et sur les conséquences que les gens subissent, ça explique la crise de confiance. Et quand un pays n'a plus confiance dans ses institutions, il peut pas se remettre debout. Et donc, il faut à la fois rétablir le fonctionnement des institutions, rétablir la continuité de l'État et repartir des atouts qu'a la France pour essayer de remonter la pente.
Alors, je suis d'accord sur le fait que les Français sont mécontents et même trouvent qu'il n'y a pas de raison qu'on leur annonce à eux de mauvaises nouvelles alors qu'ils n'ont rien fait de particulier. Bon, ça, c'est la réalité des choses, c'est basique. Je suis d'accord aussi sur le fait qu'ils considèrent pas forcément que les institutions ne fonctionnent plus, mais que le fonctionnement actuel, incontestablement, se dérègle par rapport à tout ce dont on avait l'habitude, qu'il y a quelque chose qui ne va plus comme ça allait auparavant. C'est lié à la tripartition, c'est lié à tout ce qu'on veut, mais enfin, c'est un fait. Derrière ça, ce qui est quand même, je dirais, beaucoup plus inquiétant, c'est la simultanéité et la conjonction des crises. Parce que là, on a une crise politique particulièrement grave dans la mesure où, non pas qu'il n'y ait pas de solution, mais on ne voit pas de bonne solution.
Une crise financière aussi, quand même.
Alors, c'est ce que j'allais dire. Oui. On a une crise politique, on a une crise budgétaire aiguë, imprévue dans ses proportions. Alors ça, bon, on écrira un jour sur l'histoire dont on ne connaît aujourd'hui que des fragments, mais c'est la première fois de ma vie que je vois que les responsables d'abord de la direction du Trésor, puis du gouvernement, sont totalement surpris par ce qui s'est produit. Moi, je les ai vus qui comprenaient mal ou qui réagissaient mal ou qui, au contraire, réagissaient très bien et comprenaient très bien, selon les périodes. C'est la première fois que je les vois pris de court par quelque chose qu'ils n'avaient pas remarqué. Et alors, pour les Français, c'est terriblement anxiogène. Parce qu'on se dit que c'est l'aristocratie de l'aristocratie de notre fonction publique dont on considère que c'est la meilleure du monde, qui a pas vu qui se passait. C'est quand même embêtant. À côté de ça, il y a une crise internationale qui ne s'arrange pas. Et on a un risque, j'espère que ça ne va pas se produire, mais on a un risque, en plus de la crise budgétaire, d'une crise financière qui peut se produire parce que, d'une part, autour de nous, les autres pays, et notamment les prêteurs, auront de moins en moins confiance et ont en ce moment déjà de moins en moins confiance. Dans quelle proportion ça va aller,
on ne le sait pas encore. Les marchés financiers sont calmes.
Ils sont calmes.
La Bourse de Paris
attendez,
est terminée en hausse.
Attendez, oui, mais d'accord, mais pas les taux d'intérêt. Ensuite, on est au début. Et ce qui est très visible, c'est que le scepticisme et l'incompréhension vis-à-vis de ce qui se passe en France, et alors là, pour le coup, regardez les télévisions étrangères, lisez la presse étrangère, et vous verrez quelle est l'image qu'on donne, et ça m'étonnerait que les marchés n'en tiennent pas compte.
En tout cas, pour le moment, les bourses européennes ont terminé en hausse.
Oui, hein, Paris plus 0,26.
Oui, d'accord.
Je disais à Alain, tout à l'heure, il y avait la une d'un journal suisse qui titre Notre-Dame, priez pour la France. Donc, ils font même de l'humour à l'international. Mais moi, là, je suis en désaccord avec Alain sur un point, au moins on débat, c'est sur le fait de prédire la crise. Attention, la crise, tout va s'effondrer, la crise nationale.
Le Premier ministre à la télévision.
Eh bien, je pense que c'est
le ministre de l'économie encore ce matin.
Donc, si vous voulez, on comprend pourquoi le gouvernement le fait. Mais en disant cela, il réalise la crise. Mmh. Vous savez comment c'est les anticipations économiques. Plus
c'est
vous allez prédire
la crise,
et plus les dirigeants prédisent la crise, plus cette crise va arriver. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des licenciements par anticipation maintenant. Donc, je crois qu'il y a deux urgences. C'est effectivement qu'il y ait un discours de dramatisation, pourquoi pas, mais ce discours doit s'arrêter à une certaine limite. Sinon, c'est ce discours même qui amplifie la crise, première chose. Et deuxièmement, il faut passer à l'urgence de la maîtrise de tous les plans de licenciement et de toutes les fermetures d'entreprises. Parce que, et ça, c'est un travail territoire par territoire, région par région, département par département, et pendant qu'il y a de ces discussions macroéconomiques, il y a un ralentissement des décisions opérationnelles de terrain qui doivent être prises et qui doivent être gérées rapidement, sur lesquelles il n'y a pas besoin pour l'instant du vote du budget. Alors, parce qu'il y a certaines entreprises qui s'écroulent à cause du prix de l'énergie, d'autres parce qu'elles ont des problèmes.
Je vous réponds.
Oui, répondez. Vous voyez ce que je veux dire.
Je vois très bien ce que vous voulez dire.
Vous nous avez anticipé la crise et je pense que c'est dangereux,
En ce qui concerne, est-ce qu'on doit anticiper une crise ou pas, ça n'est évidemment
prédire,
pas...
Prédire la crise.
Ça n'est pas au gouvernement de dire, attention, ça va aller de mal en pis, évidemment.
C'est ce qu'il dit.
Mais je ne dis pas le contraire. En revanche, à ceux qui sont chargés de commenter... ils n'ont pas de contraintes. S'ils pensent que ça risque d'aller plus mal, c'est normal qu'ils disent ça risque d'aller plus mal. Il ne faut pas confondre le gouvernement d'un côté et les acteurs ou ceux qui commandent d'autre part.
Non, même par ailleurs, ceux qui commentent, si je peux me permettre, même ceux qui commentent, ils pourraient en parallèle dire voilà quels sont en revanche les atouts de la France. On n'entend jamais parler des atouts positifs de la France. Certes, il y a un risque de crise, mais on a aussi des atouts.
Je n'ai pas continué à vous répondre, alors je continue quand même. Deuxièmement, dans une période comme celle-là, il y a, et c'est inévitable, mais c'est comme ça pour n'importe quel pays dans ces circonstances-là, il y a une anticipation générale du risque qui fait que, à la fois, les industriels repoussent des investissements, ceux qui voulaient venir de l'étranger pour investir en France ne le font pas, les Français eux-mêmes font évidemment plus attention à leur consommation, même si le mois de décembre, théoriquement, est un mois optimiste, il n'empêche etc. Tout le monde fait attention. Bon, mais ce qui manque le plus, alors dire il faut faire territoire par territoire, vous avez raison, mais pour que ça se passe bien, il faut qu'il y ait un gouvernement ferme qui donne des instructions, par exemple au préfet, qui joue un rôle très important dans ces cas-là. Ouais. Et
un gouvernement qui donne un horizon.
Notre gouvernement, il est suspendu à un fil dont on pense tous qu'il va être coupé demain. Alors, c'est pas le moment où il peut donner un élan.
Il donne un objectif. Si vous pouvez remobiliser les énergies positives
des gens... Pas Michel Barnier, aujourd'hui.
Si vous fixez un objectif... C'est quoi l'objectif ? C'est pas juste boucher le trou des déficits. C'est quoi l'objectif pour la
France ? Quelle vision pour la France,
C'est ça qui est
important. Alors, Mme Royal et Alain, vous avez commencé votre propos en disant... Le premier des responsables, c'est Emmanuel Macron. Parce que c'est lui qui a provoqué la dissolution.
Qui a nommé Michel Barnier.
Sauf que, avec la chute de Michel Barnier, c'est de nouveau vers lui qu'on va se retourner pour savoir quel Premier ministre. Donc, parce que maintenant, c'est le coup d'après qu'il faut commencer à jouer. Donc, si vous voulez qu'on rétablisse la confiance, que ce soit peut-être un peu moins la pétaudière à l'Assemblée nationale, et encore que, il va falloir trouver la bonne personne. Vous avez un profil, Ségolène Royal
C'est surtout pourquoi faire. C'est ça qu'il faut définir. Quelle va être la mission de ce nouveau gouvernement? Qu'il faut définir, puisque au fond, c'est pas tellement la dissolution. Moi, j'ai un désaccord sur cette analyse. Tout le monde dit c'est à cause de la dissolution, les Français n'ont pas compris la dissolution. Mais les Français auraient compris la dissolution si on leur avait expliqué pourquoi il y avait la dissolution. Elle
n'était
pas totalement absurde, puisqu'il y avait l'échec des élections européennes. Donc, on dissout pour voir ce que pensent les gens par rapport à une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Pourquoi pas
On venait de le voir avec les Européennes.
C'est la suite.
C'est démocratique, ça ne veut pas dire que c'était le moment.
Non, mais c'est la suite qui a expliqué que la dissolution, finalement, n'avait servi à rien. Puisque ce qui s'est passé dans les urnes n'a pas été pris en considération. Si on avait dit aux Français, vous avez voté, le parti au pouvoir a perdu les élections, nous sommes des démocrates, nous allons faire une dissolution pour vérifier ce que veulent les Français par rapport et quelle ligne politique
ils veulent,
et qu'est-ce qu'on voit la ligne politique.
Là maintenant, on est en décembre et on est dans l'après Barnier.
Mais on voit surtout que le groupe qui est en tête, c'est la gauche.
Est-ce que Emmanuel Macron doit-il donner sa chance à la gauche, puisque ça a échoué avec Michel Barnier et les macronistes?
Bernard Cazeneuve, par exemple.
Alors, deux choses. La première, c'est que j'espère que cette fois-ci, ça ne va pas prendre 2 mois pour trouver un gouvernement, mais plutôt 2 jours. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, on ne peut pas se permettre.
D'ici la fin de la semaine.
Dans cette phase-là, il faut que ça aille vite. Parce qu'autrement, ça participe, pour le coup, au flottement général. Ensuite, moi, j'étais partisan. D'ailleurs, je vous l'ai dit à vous, donc vous êtes témoin. Moi, j'étais partisan à partir du moment où la gauche était arrivée en tête, qu'on propose, peu importe si c'était Madame Castex ou un autre, mais qu'on propose à la gauche de former un gouvernement. Je sais très bien qu'il y aurait eu automatiquement une motion de censure très vite et que ça ne se serait pas concrétisé. Mais au moins, les formes de la démocratie auraient été respectées. Donc, sur le principe, je pense qu'il fallait commencer par ça. Bon, maintenant, on est où on est.
Oui.
La gauche, de toute façon, est favorable, pour l'instant, de façon homogène, même si on voit se profiler pour la suite des comportements différents entre socialistes d'un côté et de l'autre. Socialistes et communistes aussi. Et de l'autre, écologistes.
C'est pas la même chose.
Non.
Depuis quelques jours sur les plateaux.
Oui, justement. Et de l'autre, les insoumis et les écologistes qui sont très proches de leur position. Je dis pas qu'il faut pas tenter de ce côté-là, mais visiblement ce côté-là n'aura pas la majorité. Alors on peut essayer.
Personne n'aura la majorité.
Non. Ben si. On n'est pas parce qu'il y a la majorité. Si elle était positive, moi je vous parle en réalité quand je dis majorité, c'est la censure inévitable. Bon, si c'est la gauche, il y aura la censure.
Vous croyez que François Bayrou, il y aura pas la censure.
Mais moi d'abord, j'ai pas parlé de François Bayrou.
Bien sûr, le cornu, enfin toujours les mêmes noms qu'on cite.
Oui. Mais... Je pense que s'il y a une personnalité, soit du centre-gauche, soit du centre, soit quelqu'un choisi à droite, il vaut mieux que ce soit pas trop à droite quand même, mais il est très possible qu'il n'y ait pas de motion de censure majoritaire. C'est possible. Si c'est la gauche.
On a essayé avec Barnier.
C'est la gauche, c'est impossible.
Non, là, on a eu la démonstration que ça ne marche pas non plus avec
ce Non, ben, on n'a pas du tout la démonstration de ça.
Bah, demain, il va être censuré, Barnier.
Oui, d'accord, mais ça fait 3 mois.
Il a tenu 3 mois.
Madame Royale.
Non, mais d'accord, je ne vous dis pas que c'est idéal. Mais entre tenir 3 mois et tenir 3 heures, j'aime mieux qu'on tienne 3 mois.
Ben, surtout, on voudrait un budget pour la France.
Mais vous croyez qu'il y a beaucoup de Français qui ne souhaitent pas qu'on ait un budget. C'est pour ça que je vous dis, un, ça doit aller vite, et deux, je veux bien qu'on fasse faire un tour à la gauche pour des raisons de, disons, de politesse démocratique.
Mais c'est quoi l'objectif?
Mais quand il s'agit de choisir quelqu'un, il faut le choisir à un endroit où ça a le plus de chances de fonctionner.
Mais c'est pas le problème gauche. Il faut revenir à la stabilité institutionnelle. Il faut revenir à la cohérence des institutions. La cohérence des institutions veut, le groupe de gauche étant en tête, veut que ce soit le groupe de gauche. Mais Michel Barnier, qui a été nommé, il aurait très bien pu réussir. C'est-à-dire que l'objectif, c'est un gouvernement qui soit capable de se rapprocher le plus possible du Front républicain. C'est-à-dire de faire une alliance entre la gauche, ou ceux qui veulent la gauche, qui acceptent à gauche de faire cette alliance, le centre, et pourquoi pas une partie de la droite républicaine.
Alliance à gauche, personne ne le dit.
Donc, une personnalité qui soit capable de faire ça, qui s'est mis personne à dos, et qui soit capable de fixer un objectif, de remettre d'aplomb le budget, de constituer une équipe, et de redonner confiance au pays, si tout le monde joue le jeu, et de donner envie à tout le monde.
Mais
de donner envie, ça se construit, la politique. Quand il y a des consultations comme ça, des appareils politiques, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, c'est au président de la République de prendre ses responsabilités. Choisir une personnalité qui soit capable de construire ce gouvernement d'union. Du Front républicain, qui se rapproche le plus possible du Front républicain en trouvant la personnalité qui soit capable de faire ce Front républicain et qui connaisse aussi suffisamment bien le fonctionnement des institutions.
Bon, alors je réponds.
Reconstruire.
On me passe la parole.
Vous avez déjà beaucoup
pour finir votre phrase. Oui.
Le lien de confiance et d'espérance est positif avec les Français parce que nous avons des choses à faire.
Attendez, Alain Durand.
Je ne crois pas du tout un instant qu'il puisse y avoir, et peut-être même qu'il doive y avoir, un gouvernement formé de la gauche et d'un renfort venu du centre. Je crois que ça n'a aucune chance. Mais attendez, je donne mon point de vue.
Mais moi, je pense que
oui, vous pensez que oui, et moi, je pense que non. Et je pense que la seule chose qui puisse marcher, c'est un gouvernement dirigé soit par une personnalité, je ne sais pas laquelle, mais j'ai des préférences, mais j'ai pas de, je n'ai pas de probabilité. Mais une personnalité qui soit du centre et du centre gauche ou du centre droit et qui puisse avoir l'appui, ben dans un premier temps de ce qu'on appelle le socle commun, qui est d'ailleurs résiduel, et avec une neutralité initiale des deux extrêmes pour les laisser tenter leur chance.
Très bien.